Hop hop hop! Avant de vous laisser avec l'épisode, je dois vous prévenir qu'on a eu un petit souci lors de l'enregistrement de ma voix. Vous verrez qu'elle est un petit peu abîmée durant cet épisode. On vous le diffuse quand même car on pense avoir trouvé des idées plutôt intéressantes. Et si c'est pas le cas et que ça fait trop mal à vos petites oreilles, on se retrouve dans 3 semaines avec un nouvel épisode, des nouvelles idées et un nouveau micro.
Je tiens déjà à dire que... rien à voir, hein. Quand tu fais les petites voix, là, les petits génériques, et te voir à moitié à poil faire ça, un plus dans cette émission, qui n'était pas le cas avant, parce qu'on ne se voyait pas, parce qu'on fait ça à distance. Et vraiment, on se découvre pour la première fois. C'est vraiment bizarre. Hein.
Bizarre excitant ou bizarre gênant ?
Bizarre très excitant.
L'étincelle pour donner vie à quelque chose. Donc, à l'image de Frankenstein et de sa célèbre créature, nous allons aujourd'hui dans Brainstorming nous lancer dans la création d'un monstre. C'est-à-dire qu'en partant d'un thème découvert en direct, on va sortir un maximum d'idées de nos têtes pour donner vie à une histoire. Sera-t-elle bonne ou mauvaise ? On s'en fout. L'idée est juste de créer quelque chose. Et pour m'accompagner dans cette expérience, je suis avec mon acolyte de toujours. Vous commencez à le connaître car c'est déjà le 4e épisode qu'on fait ensemble. Je veux dire bien sûr bonjour à Guillaume. Salut Guillaume.
Salut Tristan, tu vas bien ?
Ah bah ouais, on commence tout juste à se parler, là on s'est rien dit avant, donc ouais ça va bien, ça va bien.
C'est ultra bizarre, ça, je sens un peu le fake, le « Ah oui, alors Tristan, tu vas bien ?»
Donc, ah là là, mon sacré
Tu n'as pas parcouru tout Paris pendant une demi-heure pour trouver des écouteurs juste avant.
Non, tu sais, moi, j'ai été hyper bien préparé, du coup, on n'a eu absolument aucun problème de micro, rien de tout ça, on a pu directement, dès qu'on a eu l'idée, de se lancer sur ce 4e épisode.
Oui, et tu étais même là à l'heure.
Ouais, mais franchement, c'est carrément mon genre, moi et toi, je suis tout le temps à l'heure, c'est vraiment...
Oui. La rigueur.
Ouais, la rigueur, c'est la chose la plus importante pour moi.
Des fois, je t'appelle rigueur. Hein.
Ah bah oui, c'est sûr. C'est souvent ces connards de rigueur, mais ouais, il y a.
Ouais, il y a aussi fils de pute de connard de rigueur aussi, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est quand vraiment tu es très très content de me voir.
Ouais, ça c'est le moment où t'es vraiment pile à l'heure, quoi. Et voilà, je fais fils de pute de connard de rigueur, quoi.
Oui, d'ailleurs. Ça aussi, il y a un truc qui est peut-être important à dire, c'est que. Là, entre le 3e épisode et cet épisode-là, il s'est passé plusieurs mois.
Aussi, il faut dire, il y a eu une pandémie mondiale, hein.
Accessoirement. Et puis, franchement, c'est la fausse excuse parce que on a enregistré les premiers épisodes durant le confinement. Donc, c'est vraiment que nous, ça nous a pas embêtés pour l'enregistrement du podcast.
Ah ouais, c'est vraiment tout pété ce que je viens de dire.
Ouais.
Mais oui, du coup, on a fait une longue pause, mais vous spectateurs, ne le ressentirez pas, puisque ces épisodes seront sans doute postés à la suite, pense. Hein.
Là, c'est vrai qu'actuellement, on n'a encore rien posté du tout.
Ouais, à cet épisode-là, sachez que quand vous postez des commentaires et que vous êtes là, mais pourquoi ils n'ont pas pris en compte mon retour ?
Ils n'arrêtent pourtant pas de dire qu'ils ont un micro de merde, et pourtant, ils ne s'améliorent pas. Comment ça se fait ?
Sont-ils pauvres ?
Eh ben... On fait du podcast, donc oui, on est pauvre.
Ouais, concrètement.
Si on avait de l'argent, on ferait de la vidéo.
Ouais.
Non.
En fait, tu vois, nous, on est. C'est comme. Non, en fait, j'allais faire une comparaison, mais qui ne marche pas. J'allais dire, on est là. On est comme dans la BD, tu vois, où ils sont tous pauvres. Et,
c'est ça.
Sauf que je voulais comparer ça au cinéma, mais en fait, tu vois, il n'y a pas d'équivalent pour le podcast. Tu vois, la BD, le cinéma, tu vois, c'est deux choses. Complètement contradictoire. Enfin, je m'exprime ultra mal.
Ouais, là, je te sens galérer.
Merde.
Allez, c'est normal, faut se mettre dans le bain.
C'est une vanne beaucoup trop compliquée. Je pense que je vais la stopper ici. Et on va.
On l'a cut au montage.
Ouais, elle sera peut-être coupée au montage ou pas. Et les gens sont là en mode. Mais oui, mais c'est ça aussi l'esprit brainstorming. C'est on essaie des blagues. Et des fois, on n'y arrive pas.
Et très souvent, on n'y arrive pas.
Ouais, et très souvent, très très. Mais c'est parce que c'est un brainstorming, une tornade d'idées, enfin une tornade de cerveau.
Ah.
Mais voilà, c'est pour l'explication. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué finalement dans les premiers épisodes. Hein, mais bon.
Oui, c'est vrai que le brainstorming, c'est un thème très générique qu'on utilise dans le milieu.
C'est ça, pour tous les non-initiés qu'on prend de haut.
Pour tous les moldus. Du coup, est-ce que tu es prêt, mon cher ami, à découvrir le thème d'aujourd'hui ?
Ben écoute, vu que c'est moi qui ai le thème, oui, je suis prêt à le découvrir. Du coup, cette fois, c'est un ami à moi qui me l'a donné, que je remercie très sincèrement.
Maintenant, c'était un ami à moi et aujourd'hui, on a décidé de changer.
Oui, pour, de changer d'amis.
Chercher un peu de nouveauté.
C'est ça.
De changer d'amis.
Cette fois, on a un thème. Mais en plus, mon cher ami m'a aussi donné un média spécifique sur lequel on devra brainstormer, puisque les autres épisodes d'avant.
Par média, ouais. On entend par exemple un film, une série, une BD.
C'est ça. Le support en fait.
Format.
Enfin, on peut y aller du coup.
Tu es prêt?
Yes.
Eh bien, si c'est le cas, il est temps de commencer l'expérience en découvrant l'éclair qui donnera vie à notre histoire.
C'est le calme avant la tempête.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Donc le thème est l'amour, une puissante invention. Et le média, c'est la bande dessinée.
Ok.
Ça donne l'impression que l'amour est un mythe, quoi.
Ou alors, ça c'est le premier truc qui m'a tapé dans l'oreille, c'est que l'amour est une invention, un truc qui a été créé.
Oui, c'est ce que je voulais dire par l'amour est un mythe, c'est-à-dire c'est un mensonge.
Ah d'accord, ah non, moi j'imaginais, quand je disais créer, c'est vraiment genre un mec qui s'est dit un jour, il me manque un truc dans ma vie, et donc je vais bricoler quelque chose qui va devenir l'amour.
Ça, moi je trouve que ça fait très fable ou conte, tu vois, conte de fées.
Bah là, tu vois, c'est dans l'idée, ça me fait un peu penser au film Les Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet et Caro, dans La Cité des Enfants Perdus, c'est ça. Avec tant ce truc d'inventeur un petit peu fou qui vole les rêves, tout ça. Là, pareil, je vois un truc un peu très, comme tu disais, très fabuleux. En fait, ok, un mec qui va inventer l'amour.
Bah ouais, comme faut être pas mal, faut être un romantique quoi pour faire ça.
Il faut interpréter seul.
Ouais, mais en même temps, le monde où il vit, ce gars, il doit pas être hyper ouf, hein.
C'est vrai que si l'amour n'existe pas, l'amour, c'est quand même un des éléments centraux de nos vies aujourd'hui.
En gros, dans ce monde, l'amour n'existe pas, l'amour, enfin, tous les types d'amour, ou l'amour avec un grand A, tu vois.
Ah,
parce que ça peut aussi être ça, quoi. On peut aussi juste se dire, non, c'est tous les types d'amour, vraiment, ils vivent dans un monde où les mecs, c'est des robots, quoi.
Il n'existe aucun attachement, aucune amitié, rien, en fait, il n'y a que des connaissances tout autour de toi. Ce serait ce principe-là. Chaque personne que tu côtoies, c'est un gars que tu croises dans la rue, en fait. Il n'a pas plus d'importance à tes yeux que ça.
Ouais, et du coup, ça veut dire que, en fait, les gens sont organisés en société juste pour la survie, quoi.
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que, tu vois, si on vit en société et qu'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que si on est tous ensemble, c'est pas par amour. Donc, ça veut dire que pour moi, si tu n'es pas, tu restes pas avec plein de gens autour de toi par amour, c'est juste pour ta survie, quoi.
C'est d'accord,
juste que t'as besoin, parce que t'as besoin qu'un mec, par exemple, va construire ta maison, t'as besoin de pouvoir aller acheter tes fruits et ta bouffe, parce que c'est pas toi qui va aller chasser. Donc tu restes en société juste pour ça, quoi.
Du coup, ce serait plus, tu restes en famille ou tu restes avec des proches pour ça, parce que tu sais que moi, aujourd'hui, je côtoie des gens qui viennent, justement, comme tu dis, construire les maisons et tout, toujours par nécessité, pas par amour pour eux, parce que ces gens, je les connais pas. Par contre, tout ce qui est famille, amis, tout ça, là, ça, c'est de l'amour qui fait que je reste avec eux. Et du coup, ouais, dans cet univers-là, est-ce que dans cet univers-là, on aurait un cercle comme ça, pas de proches, mais de gens que tu côtoies régulièrement?
Non, je pense pas. Je pense que la famille, tout ça, ça ferait comme chez certains animaux, où, tu sais, dès que tu deviens assez grand...
Allez, ciao, bye-bye.
Ouais, ciao, bye-bye. Quand t'es assez grand, tu peux te débrouiller. Tu sais, on revient un peu au 18e siècle où on envoie le gamin à la mine.
Mais attends, c'est pas normal, ça. Parce que moi, dès que j'ai eu l'âge de marcher, il y a mon père qui m'a envoyé... qui m'a abandonné, en fait. C'est normal, il me semble.
Oui, mais avec toi, oui. Avec toi, c'est vraiment... c'est normal.
Ouais,
vraiment que les gens autour de toi ne t'aiment pas.
Oui, bah parce qu'on est dans cet univers où l'amour n'existe pas.
Et tu es l'homme qui doit inventer cet amour. C'est ta mission. Mmh. Voilà. Et là, en fait, on est dans un truc méta où en fait, le thème est censé t'indiquer comment fabriquer cet amour. Quoi. Voilà.
D'accord. Donc, du coup, si c'était moi qui me retrouvais, retrouvais ainsi abandonné, je pense que ce qui me pousserait à créer l'amour, ce serait justement un sentiment de solitude, une envie de plus. Mmh. Après, dans le thème, il y a cette notion d'une arme puissante.
Il n'y a pas de notion d'arme. C'est l'amour, une puissante invention.
Voilà, c'est une puissante invention. Ça. Pardon, mais c'était le truc puissant qui m'intéressait. C'est ça, avec la notion de puissance, aussi une notion peut-être de pouvoir. Mmh. Ce truc-là, c'est quand on a une puissance, on obtient un pouvoir sur les autres.
Ouais.
Donc, est-ce que notre personnage chercherait à créer l'amour pour combler un vide en lui ou pour avoir une puissance, un contrôle sur les autres? Est-ce qu'il fait ça pour, entre guillemets, de bonnes ou de mauvaises raisons?
En vrai, moi, je trouvais ça super, beaucoup plus intéressant qu'on se dise « Ok, il fait ça pour des mauvaises raisons ». Et qu'il fait ça pour contrôler les gens, parce que du coup, c'est un traitement qu'on n'a jamais vu, ou en tout cas à ma connaissance.
C'est vrai que c'est l'approche un peu plus malsaine de l'amour, au final. Il y a une BD qui, en ce moment, fait. Je ne l'ai pas lue, mais qui a pas mal de succès dans la collection Une 15 en moins, qui est la collection dirigée par David Mourier. Et je vais te retrouver ce nom-là très rapidement. C'est pour l'histoire une meuf qui raconte son expérience avec son expérience amoureuse avec un mec très manipulateur, hyper malsain.
Oui, un pervers narcissique.
Voilà, c'est ça. Et puis, fameux. Du coup, voilà, c'est Tant pis pour l'amour. Et justement, ce livre va bien, cette BD vient décrire tout cet aspect malsain de l'amour, en fait. Une personne qui en profite et l'autre qui est aveuglée à cause de cet amour. Ouais, c'est cette notion d'aveuglement peut être intéressante.
Ouais. Mais moi, je trouvais intéressant que, comme nous, on n'est pas des pervers narcissiques, à ma connaissance.
Ouais, à ta connaissance.
c'est pas spécialement sexy, Tristan, de dire ça.
Et pourtant, j'ai toujours tragué comme ça, moi.
Ouais, non.
Bonjour, mademoiselle. Ah, le saviez-vous, je suis pervers narcissique. Du coup, ce personnage-là, il voulait. Dans un monde où même la notion même d'amour, le concept n'existe pas. C'est un concept que lui, il va créer. Du coup, c'est voilà. D'où va lui venir peut-être cette. Non, quoique là, c'est peut-être un petit peu tôt pour parler de ça, parce que là, j'allais dire quelle va être l'étincelle qui va lui faire naître l'idée. Mais comme tu disais, peut-être qu'il serait mieux de nous voir comment est-ce qu'il va utiliser cet amour avant de s'intéresser à comment il va le créer. Ouais.
Et même qui sait ? Je pense qu'on peut définir déjà qui est ce petit bout là, ce petit gars, qui va du coup définir potentiellement aussi la manière dont il va découvrir, avoir l'idée ou la manière dont il va le créer, quoi.
Ouais, ce que j'imagine au niveau de sa vie, c'est un gars qui s'est retrouvé dans plein de situations très compliqué, et en gros, il s'est retrouvé très régulièrement dans la merde, et à chaque fois, c'est des situations dont il aurait pu en sortir s'il avait trouvé de l'aide extérieure. Mais vu que l'amour n'existe pas, genre, personne n'a aucune raison de venir t'aider. Et du coup, à chaque fois, il doit toujours se débrouiller tout seul. Et tout ça crée une sorte de traumatisme, ou d'envie de changement, qui va le pousser à dire, ok, bon, maintenant, j'arrive pas à trouver de l'aide auprès des autres, donc je vais devenir dépendant à eux. Enfin non, ils vont devenir dépendants à moi en créant l'amour pour pouvoir en faire ce que je veux. Une sorte de vengeance, tu vois, de vengeance contre le monde.
Du coup, on peut reprendre la notion de traumatisme. Parce que du coup, la notion de traumatisme, j'ai une pote qui m'en parlait et qui me disait, pour que ça soit un traumatisme, il faut qu'il y ait eu une sensation de mort. Il peut y avoir eu un événement où ce gars, voilà, il se retrouve à répétition dans des... Donc du coup, c'est plutôt un loser quand même, le gars, parce qu'il se retrouve à plusieurs reprises dans des situations un peu de merde, quoi. Et à un moment, il se retrouve dans une situation très très compliquée où là, il peut y avoir vraiment ce truc de frôler la mort, que ce soit véritable ou pas, mais enfin, en tout cas, qu'il en ait la sensation, juste la sensation, ou que ce soit véritable, et qui en effet là, le pousse.
Le monde dans lequel l'amour n'existe pas, ça fait que chaque acte que les gens font les uns vis-à-vis des autres se résume sous forme de troc. Par exemple, là, j'ai une image qui me vient en tête. Imaginons que notre héros, il est suspendu à un pont, il tient plus qu'à une main, il est sur le point de tomber. T'as un gars qui passe, il fait, s'il vous plaît, aidez-moi. Et le mec, il fait, tu sais pas, t'as quoi à me proposer en échange? Mais je vais mourir! T'as rien d'autre, comme plus? Là, t'as un joli t-shirt, non? Tu voudrais pas me bouffer ton t-shirt en échange? Enfin, ils ont aucune raison, il y a aucun. C'est cette notion de, tout a un prix, tu sens en créant l'amour, d'un seul coup, tu as cette notion plus abstraite qui vient bouleverser cet ordre établi.
Ouais, c'est le. En fait, il invente le freemium, quoi.
Magnifique, magnifiquement dit.
Ouais. Ce gars, donc c'est un peu un loser. Donc, il part avec très peu d'atouts dans la vie. Il n'a pas beaucoup d'atouts. Lui, c'est quoi sa monnaie d'échange? Parce que du coup, tout le monde développe plus ou moins des compétences pour se dire, si je me retrouve dans la merde, il faut que je puisse pouvoir vendre. Et du coup, lui, ça se trouve, lui c'est le mec qui prend les canettes et qui fait des petites structures.
Justement, ouais, lui, il faut que ce soit un truc en rapport avec l'invention. Mais que justement, au premier abord, on se dit, mais ces inventions, elles ne servent à rien. Et à un moment, il comprend que ces inventions, elles ne servent pas à rien, elles vont lui permettre de créer l'amour.
Ouais, mais ça, du coup, là, j'imagine un truc vachement proche de l'alchimie ou des trucs comme ça, où il crée des potions, il essaie d'inventer des potions, mais genre, peut-être il fait des potions ratées, ou tu sais, ça te donne des trucs comme des maladies, ou genre, ça change la couleur de tes cheveux.
Ah ouais, moi, j'imagine un truc, c'est, ouais. Qu'importe ouais. La forme que ça prend, que ce soit des potions ou autre. En gros, c'est un truc qui, imaginons, fait pleurer quelqu'un. Genre, d'un coup, genre, t'as pris une potion, la personne boit la potion, elle se met à pleurer. Les gens, ils disent, ouais, ok, c'est cool, mais, enfin, ça sert pas à grand chose. Et c'est, ouais, mais regarde, j'en ai une autre, si tu la bois, tu te mets à sourire. Ouais, ok, cool, mais encore une fois, comment tu l'utilises, ce truc, c'est inutile. Et il sent, toutes ces potions, j'ai passé en mode lover, mais l'amour, c'est finalement un mélange de toutes ces émotions, c'est des pleurs, de la joie, etc. Et en mélangeant tout ça, au bout d'un moment, genre, peut-être pris d'une colère soudaine, je sais pas, il peut foutre son laboratoire en sans dessus dessous. Et cela va avoir pour conséquence de mélanger les potions et créer cette fiole magique qui est la fiole de l'amour. En gros, le truc le plus important avec cette idée que tu viens d'avoir, c'est le fait que son métier, voilà, son atout, comme tu disais, paraissent inutiles au début, mais c'est ça qui va le mener à créer l'amour.
Oui, parce qu'en plus, là, on peut totalement réutiliser ça dans la suite, où du coup, ok, il a créé l'amour, mais du coup, il va pouvoir se servir des autres potions pour pouvoir, du coup, amplifier l'amour des gens envers lui. Parce que du coup, par exemple, quand tu vois quelqu'un sourire, en tant qu'humain, t'es plus poussé à l'apprécier que quelqu'un qui sourit jamais. Donc il peut très bien se servir de ses anciennes potions ensuite pour décupler potentiellement celle de base de l'amour.
C'est une super bonne idée. C'est de... En fait, il ne crée pas l'amour en un coup. Et là, donc, ça va être un travail de notre côté de décomposer un petit peu tout ce qui fait l'amour pour nous et même toutes les formes d'amour. L'amitié, c'est... Voilà, comment est-ce qu'on définit l'amitié, etc. Et au fur et à mesure de la BD, il va venir ajouter ou enlever des choses pour en venir à l'amour qu'on connaît aujourd'hui. Genre, imaginons, c'est une notion très abstraite, ça demanderait beaucoup de temps pour décortiquer, voilà, comment on définit l'amour. Mais là, si j'essaie de prendre un exemple vite fait, voilà, genre l'amour, enfin l'amitié, c'est on va quitter les blancs.
Ouais.
Là, on arrive à un truc tellement, tellement
philosophique là. C'est des choix philosophiques qu'il faut faire. Hein.
Ouais, c'est ça.
Tu vas pas pouvoir. Tu vas dire des trucs, les gens vont pas être d'accord. C'est obligé.
Ouais,
donc, mais on peut partir sur une. En gros, c'est un amour platonique, quoi.
Enfin, pour moi, l'idée, ce serait de brasser toutes les formes d'amour, justement. Ou genre, imaginons ce personnage-là, il a trois proches qu'il va vouloir, dont il va vouloir devenir important pour eux. Et donc, du coup, t'as un de ses proches qui va devenir un ami, un de ses proches qui va devenir un membre de la famille, et un de ses proches qui va devenir un amour, par exemple. Et l'idée, c'est au travers de ses proches, on vient décrire les différentes formes d'amour qui pourraient exister. Et comment est-ce qu'il va la construire? Par exemple, je vais essayer, du coup, de continuer l'exemple que je cherchais sur l'amitié. Genre, l'amitié, c'est le fait de pouvoir rigoler de tout avec quelqu'un. Imaginons, c'est ça. Voilà, on va dire que l'amitié, c'est le fait de pouvoir rigoler de tout. Et trouvons un deuxième truc, ça va être de pouvoir tout partager. Voilà. Là, c'est pas forcément vrai, là, on est peut-être plus sur de l'amour, mais bon, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Et ben, du coup, dans un premier temps, il va seulement faire le fait de pouvoir tout partager. Et du coup, il va profiter de ça, il va se dire, mais c'est vachement cool, du coup, de faire ça. Et au bout d'un moment, plus tard dans l'histoire, il se dit, ah ouais, mais, en fait, ça ne me suffit pas, il va aussi falloir que j'ajoute le fait de pouvoir rigoler de tout avec cette personne. Et donc, du coup, il va construire l'amitié au fur et à mesure, en ajoutant potion sur potion, en manipulant la personne comme ça. Et il pourra même aussi, et ça, ce serait intéressant, partir sur de mauvaises pistes. Genre, à un moment, il pourra dire que, ouais, l'amitié, c'est que la personne est prête à prendre tous les risques possibles pour toi. Et se rendre compte que ce n'est pas viable, car la personne se met trop en danger, au final. Donc là, c'est vraiment un exemple un peu bateau. Mais voilà, il va ajouter des trucs, en enlever d'autres, et il va faire sa petite pambouille jusqu'à créer l'amitié qu'on connaît aujourd'hui. Et pareil pour l'amour. Et pareil pour la famille.
En fait, je pense qu'il faut quand même simplifier. Parce qu'on est sur une bande dessinée, ça veut dire qu'on est sur... Ou alors on est sur une série. On est sur une série de bande dessinée.
Laisse-moi faire un one-shot pour le moment. Je pense que ce sera...
Ok. Parce que du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que ça... On ne pourra pas traiter tous les amours, quoi.
Je suis d'accord avec beaucoup. Toi.
Donc je pense qu'il faudrait en choisir un en particulier qu'on mettrait plus en avant que les autres. Ou alors on reste sur les trois, comme tu as dit.
One-shot, il n'aura pas la place de parler de ces trois-là. Ouais. C'est sûr et certain.
Oui, c'est ça. Si on veut aller en profondeur, je pense que c'est vrai que c'est mieux d'en choisir un seul. De dire, ok, par exemple, on peut prendre l'amitié, hein, en vrai. On a déjà commencé. Je pense qu'il faut juste résumer à Lucas. Il arrive tout le temps des merdes. Et il se dit, j'ai besoin de faire en sorte de créer quelque chose qui fera qu'il y a quelqu'un toujours avec moi et qui m'évitera d'avoir des merdes.
Du coup, ouais, c'est ça, en fait, il veut avoir de l'importance pour cette personne pour ne plus se retrouver seul, sans aide, dans la merde. Et c'est là où on va en arriver à ce truc de construire l'amitié au fur et à mesure. Au départ, il va se dire, je vais simplement lui donner le désir d'être avec moi. Voilà, et avec ça, du coup, je serai plus jamais tout seul, vu qu'il voudra être avec moi. Du coup, il crée ce désir-là, le mec reste tout le temps avec lui. Mais un jour, il se retrouve à nouveau dans la merde, il lui dit, putain, aide-moi. Le mec, il dit, non, moi, je suis avec toi, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Et il se dit, merde. Bon, ben, du coup, à ça, je vais ajouter de la bienveillance, enfin, du moins de... Ouais, quel sentiment pourrait rajouter pour que la personne ait envie d'agir pour lui?
Je suis en train de penser à un truc, c'est est-ce que au lieu qu'il crée genre un désir envers lui, en fait, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est juste d'inculquer la capacité d'aimer. Et en fait, du coup, ça veut dire que la personne en soi, elle peut aimer tout le monde. Tu vois, c'est pas genre elle peut aimer que lui. Et en fait, du coup, lui, il la manipule pour faire en sorte qu'il aime que lui. Du coup, quand elle découvre ça, donc elle sait pas ce qui lui arrive. Et lui, il peut très bien le manipuler cette personne, manipuler ses émotions pour faire en sorte qu'il ne l'aime que lui. Et au fil de l'histoire, peut-être que cette personne va vouloir s'émanciper et va se rendre compte qu'en fait, mais je peux aimer tout le monde. Et en même temps, je me dis, il y a un truc terrible. C'est-à-dire que cette personne-là, elle aime, mais en retour, il n'y a personne qui l'aime. C'est horrible.
C'est un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure, j'ai pas donné l'idée. Parce que c'était encore tôt pour en parler, mais justement cette personne qui va être le cobaye de Lucas, déjà premièrement, comment Lucas va la choisir, ça, moi j'imagine bien, c'est juste c'est son livreur de pizza, et au moins il se dit bon, allez, il faut que je teste le truc. Vous, venez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui fait manger le truc. Bref. Et du coup, cette personne-là va être la seule personne au monde capable de ressentir cette nouvelle chose. Du coup, pour elle, va aussi y avoir peut-être un énorme sentiment de solitude, des choses dans le genre qui vont se créer, car, et d'ailleurs, là, ça me fait penser en parlant de ça, qui se sentira seul et ce malheur de ne pas trouver quelqu'un d'autre qu'il aime, lui, il va se rapprocher de Lucas, au final. Car Lucas, même s'il s'en rend pas compte, c'est ça son problème. C'est que personne ne l'aime. Et lui, il voit ça de manière très pragmatique. Personne ne m'aime, donc personne ne m'aide. Mais dans tout, j'ai vraiment dit, c'est ce sentiment d'aimer. Il y a fait un parallèle intéressant avec Lucas et son cobaye. Et du coup, comme tu disais, il y a ce truc qui peut être extrêmement rigolo. C'est que t'as Lucas qui vient, comme tu dis, créer, etc., la possibilité d'aimer tout le monde. Mais du coup, ce mec, ce cobaye, se met à aimer tout le monde, sauf Lucas. C'est horrible, mais c'est un truc qui me fait assez rire.
Ouais, mais je pense qu'il y a un potentiel, enfin, du coup, à la fois c'est horrible, mais à la fois il y a quand même un potentiel pour des scènes assez comiques. Ça dépend en fait à quel point on pousse le truc. Est-ce que le mec, est-ce qu'il lui donne des doses, il lui donne une dose très très forte ou pas? Et tu vois, le mec il se met à aimer beaucoup beaucoup les gens, ou c'est juste il se met à aimer, tu vois. Tu vois, est-ce qu'on est genre d'un coup ça devient un gros nounours qui est là en mode j'ai besoin de donner de l'amour.
Et enfin, ça pourra également faire partie des différents tests que fera Lucas, ou genre la première fois il pourra lui en donner trop. Du coup, il va devoir équilibrer ça en calmant les choses.
Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que dès que Lucas, son pote, se retrouve à être dépressif, parce que du coup il est là, il essaie d'aimer les gens, et en retour, il y a juste Lucas qui lui donne un simili d'amour. Et comme il tombe en dépression, il se dit ah bah du coup je vais lui en redonner, enfin tu vois, je vais lui remettre de la potion et je vais le droguer à ça, quoi. Et je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être une notion intéressante dans ce truc de il est vidé, il se vide de l'amour, enfin parce que tu vois, si tu reçois jamais rien et que tu donnes tout le temps, bah au bout d'un moment, pour recharger, ça devient compliqué, quoi. Tu tombes en dépression, je pense. Donc du coup, Lucas il le shoot et je pense que face à ça, il est plus dans l'incompréhension, parce que du coup, même Lucas, il sait pas, enfin même s'il a inventé ça, il sait pas trop, il maîtrise pas trop le délire, quoi, je pense.
Ce que je propose, c'est que là, on a une bonne idée, enfin on a une idée à peu près un peu basique de notre concept. Et maintenant, on réfléchit à ce que la BD peut lui apporter. Par exemple, au début, du coup, donc on commence par suivre Lucas. Lucas qui, en termes de dessin, serait très défini, avec des traits très clairs, etc. Et vu qu'il n'a des sentiments pour personne, et que personne n'a des sentiments pour personne, tous les autres personnages, ils sont flous, en fait. Soit ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de trucs dans le genre. Parce que, du coup, il ne fait pas attention à eux, c'est juste des individus. Et puis, qui lui sont utiles ou qui ne sont pas utiles, tout simplement.
Ouais, on pourrait aussi avoir peut-être un peu bateau, mais le cobaye, enfin les potions peuvent, enfin la BD peut être en noir et blanc.
J'ai pensé à ça aussi.
Et par contre, toutes les potions sont de couleur.
Et plus le personnage de Lucas se rapproche de l'amour comme on l'entend, plus la BD commence à être colorée, plus tout ce qu'il voit lui commence à prendre de la couleur. Et voilà, c'est plus il va se mettre à apprécier quelqu'un, plus déjà cette personne-là va être définie visuellement, parce que si avant elles étaient complètement floues, plus il va commencer à la définir avec des vrais traits de visage, etc. Et plus on avance, plus ça va commencer à créer. Tu sais, l'amour, l'amitié, souvent ça se décrit comme une sorte de chaleur, et quelque chose de noir et blanc qui passe en couleur, on a vraiment ce sentiment de chaleur qui se crée.
Ouais, de ouf. Oui, en plus ça peut être j'ai dit couleur, mais en vrai ça peut aussi juste être des teintes, plus des teintes.
C'est ça, moi j'imaginais plus en intro on est plutôt on est désaturé, et plus on avance plus on vient saturer les couleurs. Ouais. Bah là en français c'est un film qui s'appelle The Giver, il me semble qu'en français c'est Le Passeur, je me souviens plus. Et c'est justement un film où les personnages ne voient pas les couleurs, mais je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'est une question d'émotion, de trucs dans le genre. Et en gros, c'est ils ne ressentent pas les émotions. Et un beau jour, t'as le héros qui va être pris, qui va être devenir l'élève du passeur, le passeur qui est la personne qui connaît tout, qui connaît la littérature, qui connaît toute l'histoire du monde. Et plus il va traîner avec lui, plus il va commencer à voir les couleurs, plus il va commencer à se rappeler des noms des choses et à se rappeler du nom des émotions. Et voilà, donc au fur et à mesure du film, on a les couleurs qui réapparaissent. Et je me souviens qu'au début, la première chose qu'il voit en couleur, ou une des premières choses, c'est les cheveux d'une fille dont il est amoureux. Du coup, il se dit, mais en fait, elle a les cheveux châtains, quoi. Là, j'ai d'autres idées qui me viennent en tête. Bon, là, voilà, on balance tout, on fera le tri de ce qui est bien ou pas. Voilà, au début, encore une fois, on n'a pas d'émotion. Du coup, tout est très pragmatique, très carré. Et justement, on jouera avec ça, avec des bulles carrées et des cases carrées, par exemple. Ouais. Et plus ils vont commencer à mettre de l'émotion, plus ils vont commencer à mettre des choses comme ça dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font, plus on va pouvoir commencer à venir arrondir les bulles. Même l'écriture, la police d'écriture pourrait être jouée là-dessus. Où au début, on a une écriture très, comme du courrier, très sobre, sans aucune particularité. Et plus on avance, plus les personnages ont de l'émotion, plus on peut aller vers des écritures plus manuscrites. Après, au niveau, c'est un truc qui est important pour la BD, au niveau des chara-design. Comment tu imagines Lucas ?
Après, moi, j'imagine les bandes dessinées assez dans un style plus comics. Comics américain, je sais pas pour toi.
Tu connais pas une référence
C'est vrai que c'est assez divers, mais avec plus des gros traits, peut-être, je dirais... peut-être pas enfin tu vois le The Dark Knight de Frank Miller.
Ouais.
Bon là je trouve ça peut-être pas aussi exagéré. Enfin quand je veux dire exagéré je veux dire peut-être pas aussi brut et violent dans la il y a une façon de dessiner qui est très moi ce que j'aime bien en fait je veux dire et si je me souviens bien hein, du visuel c'est très carré quand même.
Ouais là du coup là j'ai tout sous les yeux ouais c'est des personnages très massifs.
Ouais, voilà, mais pas aussi massif du coup.
Ouais.
On n'est pas sûr. Mais dans le côté carré avec des traits noirs bien gras, j'imagine. Ouais, j'avoue que j'ai dans cette idée, avec des. Où il y a pas mal de détails un peu crado, tu vois, avec pas mal de pliures dans les vêtements, des détails comme
ouais,
ça.
Ouais, beaucoup de textures. Ouais, il y a ça qui pourrait être intéressant. Encore une fois, parce que là, la bande dessinée, si on l'utilise comme support, son principal intérêt sera de d'illustrer le passage de on ne fait pas attention aux autres, les autres prennent de l'importance pour nous. Et du coup, on pourra aussi avoir ce truc de au début, quand il ne fait pas attention aux autres, on met beaucoup d'importance dans les détails, genre des décors, des plis de vêtements et tout. Et plus on avance dans l'histoire, plus on réduit les détails et on se concentre plus sur les personnages. On peut même arriver à un stade où parce que plus on va avancer, plus il y aura de la couleur. Du coup, plus il y aura de la couleur, moins les traits seront indispensables. Du coup, ça pourrait même juste devenir des taches de couleur qui viennent juste rappeler la silhouette des objets.
Ouais, on peut essayer d'être dans la sensation, quoi.
Ouais, ça, bah là, on touche presque à de l'expressionnisme, du coup. Non, ça c'est cool, ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Ça pourra vraiment créer une BD, un objet atypique, tu vois, avec cette évolution du graphisme. Ouais, tu vois, comme ça, au début, j'étais moyen chaud pour quand t'as proposé du Frank Miller et tout, mais là, tu viens de me vendre le truc pour mon argent.
Parce qu'après aussi, en fait, le truc, c'est qu'il faut. Je sais pas dans quel univers on est aussi. On n'a pas vraiment précisé ça, tu vois. Si on était plus, à un moment, on a dit que c'était un peu, il y avait un truc un peu fable, conte, mais on n'a pas exprimé si c'était dans un truc genre, on s'approchait plus du cyberpunk, du Moyen Âge ou du contemporain. Et j'avoue que pour moi, ça change pas mal les chara-design parce que du coup, on va changer de symbolique selon les époques et selon les univers.
Une très bonne question que tu poses là. Là, j'ai. Une image, plus on en parle, plus qui me revient en tête, c'est le film The Lobster. Je sais pas si tu l'as vu.
Non, je l'ai pas vu.
C'est, pour pitcher ça rapidement, un monde où on est obligé d'être en couple, et si on n'est pas en couple au bout d'un certain nombre de temps, si on n'est pas amoureux, on est transformé en animal. Et du coup, c'est un monde qui qui est très similaire au nôtre. On l'explore pas tant que ça. Mais voilà, c'est un monde très contemporain, mais avec toujours une touche un peu vieillotte dans les décors, les trucs dans le genre.
Ouais. Vieillotte, dans quel, c'est quoi vieillotte?
Tiens,
pour toi?
Je vais t'envoyer une image. Donc ça, c'est pas du tout radiophonique. Je suis désolé.
Bah ouais. tu peux pas nous dire les années 80, 90.
Ouais, mais attends, tu vas m'aider à décrire ça parce que là, je ne trouve pas les mots. Ok.
Tu es ébahi face à cela. Bon, de toute façon, on mettra sans doute la ref, mais on est dans un côté un peu années 40, j'ai l'impression.
Ouais,
les gens, ils sont habillés. Enfin, on a une robe à fleurs là, pareil. On a des couleurs assez ternes, ouais, marron,
des moquettes à motifs. Il y a beaucoup cette vibe années 40-50, mais sur un univers moderne. Et je pense d'ailleurs ça collerait bien parce que justement tout ce côté années 40-50, il y a encore cette notion un peu de bourgeoisie, de gars coincés entre guillemets, si je puis dire, qui correspondrait bien à ces individus qui ne ressentent pas d'émotions et qui du coup ne donnent pas d'importance aux autres.
Et du coup, en vrai, on n'a pas plus défini que ça nos personnages. Donc ok, on a pour l'instant on a deux personnages.
Ouais, bah, on a Lucas et le cobaye.
C'est ça, on a Lucas qui a quand même un peu de personnalité et le cobaye qui n'en a pas.
Les premières idées que j'ai vis-à-vis du cobaye, c'est peut-être un peu facile, je sais pas, je dis ça, c'est, j'imagine, beaucoup plus simplet. Ça, c'est un peu souvent les caricatures qu'on a quand on a un savant fou et son cobaye. Le cobaye est toujours un peu simplet, un peu, oh bah ok, moi je fais ça. Là, j'ai Megamind en tête, qui est un dessin animé où, enfin, c'est un grand méchant qui veut créer un autre grand méchant. Qui veut créer un super-héros pour avoir quelqu'un à affronter. Et du coup, ce super-héros qu'il essaye de créer est pareil, complètement débile. Mais voilà, là c'est peut-être un peu facile.
Je pense qu'il y a forcément ce côté naïf, en fait. C'est l'histoire appelle à ce que le cobaye ait cette naïveté. Parce qu'on lui donne une émotion qu'il n'a jamais connue. Donc, soit il en prend peur, soit il a un côté naïf face à ça, et du coup, il plonge dedans. Et je pense que c'est mieux si au début, il a un côté très naïf face à ça, je découvre un nouveau truc et tout. Oh, c'est cool, ça fait des sensations, j'ai des picotis, je me sens heureux, trop cool. C'est comme quand je fais des crêpes et tout. J'imagine qu'ils sont quand même si ils ont pas d'amour, ils peuvent avoir des moments où ils sont contents, quoi.
Ouais,
logiquement.
Ouais.
Donc,
c'est que l'amour qui n'existe pas, crêpes, le bonheur, tout ça, ça existe.
C'est ça. Ouais, ça existe. Donc, du coup, il a cette sensation, il est très naïf face à ça, et on plonge dans une désillusion. Dans un arc de désillusion où petit à petit il est là en mode ok, mais en fait c'est une malédiction, c'est à dire que je suis le seul à ressentir ça, et peut-être que de naïf à désillusion, il va comprendre que Lucas le manipule, et c'est là qu'il va comprendre qu'on lui a injecté ça, parce que je suppose que Lucas ne lui a pas dit je t'ai injecté un petit truc,
tu vois, il m'en dira des nouvelles
depuis le début. Ouais, c'est ça, bois massa, c'est génial. Peut-être à la finalité, il va essayer d'inculquer ça à d'autres personnes, notre cobaye, et en fait Lucas va finir encore plus seul, quoi.
Là, avec ce que tu as dit, ça m'a fait penser à la fin, et je verrais bien un truc où justement Lucas se rend compte de. Enfin non, pas Lucas, le cobaye se rend compte que Lucas le manipule et que du coup il sera toute sa vie seul à aimer alors que personne ne l'aime, et pour empêcher ça, il va finalement voler les fioles, les créations de Lucas et partager ça à tout le monde. Genre, il trouvera un moyen, soit genre il fout dans les nuages et ça crée de la pluie qui vient contaminer tout le monde de ses émotions. Et à la fin, tout le monde aura ses émotions, sauf Lucas, qui, pour une raison ou une autre, est passé à côté. Et du coup, voilà, lui, qui voulait utiliser ça pour des raisons très personnelles et tout, sera puni à la fin de, voilà, je me retrouve avec le seul, j'ai créé la plus belle invention, l'invention la plus puissante du monde, pour revenir au thème, et je suis le seul à ne pas pouvoir en profiter.
Dans ta gueule, Lucas.
C'est très triste, mais...
C'est tout ce que tu mérites. Tu as essayé de manipuler.
Ouais, mais après, mais du voilà. coup, il faut vraiment le rendre antipathique, Lucas, antipathique as fuck.
Oui.
Genre, bah, genre les tests qu'il fait sur le cobaye, il n'est pas sûr que le cobaye survivra.
C'est marrant parce que du coup, c'est quand même un gars de base. Je pense que ça peut vraiment être un personnage à la Severus Rogue dans Harry Potter. Tu sais, où Severus Rogue, c'est vraiment le personnage ultra antipathique, mais où tu comprends. Enfin, il y a un truc où c'est ok, c'est pas totalement de sa faute. À la fin, ça finit mal pour lui, mais quand même, tu te dis, bon, il a pas eu une vie facile, quoi.
Ouais, genre,
donc c'est compréhensible qu'il...
Le personnage finit mal, mais même s'il a mal agi, on est quand même triste pour lui. C'est carrément intéressant pour ce personnage de Lucas, je pense. Que, encore une fois, c'est un personnage qui a une souffrance qu'on a tous connue à un moment ou un autre, ce sentiment de solitude et d'abandon. Et je pense que rien que ça, si on arrive à bien retranscrire ça dans la BD, il pourra devenir très, très intéressant. Et du coup, là, je suis en train de penser aux dernières pages de la BD. Un truc qui pourrait être super cool, c'est que on conclut avec Lucas qui a rendu tout le monde, qui a donné ses émotions à tout le monde. Donc toi, t'as une page pleine où t'as plein de mouvements, plein de couleurs, etc.
Là, tu veux dire le cobaye?
Oui, le cobaye, pardon. Le cobaye okay. a réussi à répandre l'amour dans le monde entier. Du coup, t'as une page pleine avec plein de couleurs, plein de mouvements, vraiment un bonheur absolu qui s'en dégage. Tu tournes la page et on finit avec Lucas seul dans un décor gris. Et genre avec un petit mot finalement, une dernière phrase de Lucas pour
un petit mot ça. Genre faut que j'aille aux toilettes.
Ça te plaît cette fin là, cette idée là avec ce personnage de Lucas à la Severus Rogue qui est cruel mais qu'on arrive à comprendre?
Ouais, très bien.
Donc maintenant qu'on a bien brainstormé, il est temps de récapituler pour voir à quoi ressemble notre monde.
Écoutez ça, cela ne me dit rien qui vaille.
Nous sommes dans un monde où l'amour n'existe pas. Les humains se côtoient uniquement pour ce qu'ils peuvent s'apporter les uns aux autres.
Et dans ce monde, nous allons suivre le petit Lucas. Lucas est un alchimiste qui a développé des potions provoquant des réactions très mineures chez les gens. Il peut par exemple les faire rire ou les faire pleurer.
Mais ça n'intéresse pas du tout les gens. Donc, il se retrouve inutile et isolé de la société. Ce qui le met souvent dans des situations très compliquées.
Et cela ne peut plus durer, car cette situation compliquée l'amène même à frôler la mort. Il décide alors de réagir et crée une potion qui obligera quelqu'un à l'aider partout où il va.
Lucas arrive à créer cette potion et il décide de la tester sur un cobaye. Et après quelques ajustements, il crée l'amour chez cette personne qui découvre naïvement cette émotion qui lui fait ressentir un certain plaisir.
Mais le problème, c'est que maintenant que le cobaye aime, il peut aimer tout le monde. Et ça ne plaît vraiment, mais alors vraiment pas à Lucas, qui voulait avoir une personne rien que pour lui.
Mais ni Lucas ni les autres gens ne sont habités comme lui par l'amour. Alors le cobaye se retrouve perdu dans des relations à sens unique et tombe dans ce qu'on peut appeler la dépression.
Malheureusement pour lui, tout ne reviendra plus jamais comme avant. Car le cobaye finit par comprendre d'où lui vient cette nouvelle émotion. C'est cette fameuse potion créée par Lucas. Alors un soir, pris de rage, il vole cette potion pour ensuite la faire pleuvoir sur le monde entier.
Et à ce moment-là, tout le monde découvre l'amour. Sauf Lucas, qui se retrouve à nouveau seul dans un monde pourtant empli d'amour.
Guillaume, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, de cette histoire?
C'est marrant parce que du coup, je trouve que ça ressemble vachement à ce qu'on a fait la dernière fois. Enfin, il y a un espèce de mix, je trouve, entre l'épisode 2 et 3, où il y avait avec le souffle spirituel et l'escroquerie du désir. On a un espèce de mélange entre la fable et le concept un peu le concept un peu de SF où on manipule les gens.
Il y a cette notion de pénétrer dans les sentiments des gens. Putain, tu te rends compte, quatrième épisode, on se répète déjà.
Ouais, mais en même temps, il faut dire, le thème était assez proche du dernier. Du dernier. On était sur Esprit du désir, là, l'amour, un pouvoir très puissant.
moi, sur cet épisode-là, du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant de partir sur de la BD. Après aussi, on se rend compte, et c'est parce qu'on l'a essayé qu'on peut s'en rendre compte, que finalement, à part vous en parler de comment est-ce que notre histoire va se retranscrire sur la BD, en termes d'écriture, c'est pas... Enfin, en termes d'écriture de brainstorming, littéralement, c'est... ça se différencie pas tant que ça d'un long métrage. Tu vois, on peut se permettre plus de trucs un peu fifou comme voilà mettre en scène un alchimiste. Mais à part ça, en termes de structure narrative vraiment, pour l'œuvre, avec cet essai-là, j'ai pas l'impression qu'on ait trouvé quelque chose qui passe vraiment bande dessinée. Mais bon, après, Minor, c'était assez intéressant. Et puis, c'est vrai que parler un petit peu des visuels, c'est un truc qu'on pourrait aussi faire en... Parce que jusqu'à maintenant, on a fait des longs métrages qu'on aurait aussi pu faire en long métrage qu'on n'a pas forcément fait. Et c'était plutôt intéressant.
Ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça plus ou moins à chaque fois, sachant qu'on a quand même tendance à créer des univers visuels très forts. Mais sinon, cool. Coolos.
Et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de Brainstorming où nous allons créer un nouveau monstre.
Qui c'est le meilleur ?
Ah, c'est toi le meilleur !
Non, c'est toi le meilleur !
Et je suis le meilleur !
Tu es le meilleur !
D'accord.
Oh, c'est rigolo, hein.